48. Travis jetait de temps à autre un coup d'œil sur Joie qui semblait totalement absorbée par Xander. Il n'avait aucun doute sur ce qui était en train de se passer. Malgré son hymne à la liberté, Xander devait juger l'occasion irrésistible. Il n'avait aucun moyen de parler avec des robots sur la base d'une égalité intellectuelle et encore moins avec des animaux. Discuter avec ses semblables solariens lui serait désagréable et les éventuelles communications toujours forcées, jamais spontanées. Quant à Travis, Joie et Pellorat, il pouvait être à demi-humain à ses yeux, estimait-il, ne pas entraver plus sa liberté que ne l'eussent fait un robot ou une chèvre, il n'en demeurait pas moins intellectuellement ses égaux ou quasi-égaux, et l'occasion de pouvoir leur parler était un luxe unique dont il n'avait encore jamais joui. Pas étonnant, songea Travis, qu'il se laissa aller en ce sens. Et Joie, il en était encore plus certain, encourageait ce penchant, se contentant de pousser doucement l'esprit de Xander vers ce vers quoi il inclinait de toute façon. Sans doute la jeune femme partait-elle de l'hypothèse que si Xander parlait suffisamment, il avait des chances de leur révéler quelques détails utiles au sujet de la Terre. Pour Travis, l'idée se tenait. De sorte que, même s'il n'avait pas été franchement curieux du sujet en cours, il aurait néanmoins fait l'effort de poursuivre la conversation. « Comment agissent ces lobes cérébraux ? » demanda-t-il donc.
« Ce sont des transducteurs, » répondit l'intéressé. « Ils sont activés par les échanges thermiques qu'ils transforment en énergie mécanique. »
« Je n'arrive pas à y croire. La circulation thermique est insuffisante. »«
Petit demi-humain, vous ne réfléchissez pas. » S'il y avait des foules de solariens, chacun cherchant à utiliser les échanges thermiques, alors là, oui, l'approvisionnement serait insuffisant. Je dispose en revanche de plus de 40 000 km² à moi, tout seul. Je puis recueillir les calories émises par n'importe quelle proportion de ces km² sans personne pour me les disputer, de sorte que la quantité est suffisante. Vous voyez ?
Est-ce donc aussi simple de recueillir la chaleur émise sur une aussi vaste surface? Le simple fait de la concentrer doit exiger de grandes quantités d'énergie.
Peut-être, mais je n'en ai pas conscience. Mes lobes transducteurs concentrent en permanence les transferts thermiques, de sorte que le travail est fourni en fonction des besoins. Quand j'ai soulevé vos armes dans les airs, un volume précis d'atmosphère éclairée par le soleil a perdu une partie de sa chaleur en excès au profit d'un volume équivalent situé à l'ombre, de sorte qu'en l'occurrence, je me suis servi de l'énergie solaire. Au lieu toutefois d'utiliser des moyens mécaniques ou électroniques pour mener la tâche à bien, j'ai utilisé un moyen neuronique.
Il caressa l'un de ses lobes transducteurs.
Cet organe agit rapidement, efficacement, de manière permanente et sans effort.
Incroyable,
marmonna Pellorat.
Pas du tout incroyable,
dit Xander.
Songez à la finesse de l'œil et de l'oreille, capable de transformer en information d'infimes quantités de photons, d'imperceptibles vibrations de l'air. Cela vous semblerait incroyable s'il ne vous était pas familier. Les lobes transducteurs ne sont pas plus incroyables et ne le seraient pas pour vous s'ils ne vous étaient étrangers.
À quoi vous servent ces lobes transducteurs en fonctionnement permanent ? Demanda Travis.
À diriger notre monde. Chacun des robots de ce vaste domaine retire de moi son énergie, ou plutôt des échanges thermiques naturels. Qu'un robot ajuste un contact ou qu'il abatte un arbre, son énergie provient de la transduction mentale, ma transduction mentale.
Et si vous dormez?
Le processus de transduction se poursuit, que je veille ou que je dorme, petit demi-humain. Cessez-vous de respirer quand vous êtes endormi? Votre cœur arrête-t-il de battre? La nuit, mes robots continuent à travailler au prix d'un infime refroidissement de l'intérieur de la planète. Le changement est imperceptible à l'échelle du globe et nous ne sommes que 1200 en tout, si bien que toute l'énergie utilisée ne raccourcit pas notablement la vie de notre soleil ni n'épuise la chaleur interne de la planète.
Avez-vous songé que vous pourriez vous en servir comme d'une arme ? Xander fixa Trévis comme s'il s'agissait d'un objet curieusement incompréhensible.
Je suppose par là que selon vous, Solaria pourrait affronter d'autres mondes avec des armes énergétiques fondées sur la transduction. Pourquoi faire ? Même si nous pouvions défaire leurs armes énergétiques basées sur d'autres principes, ce qui est rien moins que certain, qu'aurions-nous à y gagner ? La maîtrise d'autres planètes ? Qu'irions-nous faire d'autres mondes quand nous en avons un idéal pour nous seuls ? Chercherions-nous à établir notre domination sur des demi-humains pour les utiliser à des travaux forcés ? Pour ce faire, nous avons nos robots, qui sont bien supérieurs. Nous avons tout. Nous ne voulons rien, sinon qu'on nous laisse en paix. Tenez, je vais vous raconter une autre histoire.
Faites, dit Trévis.
Il y a 20 000 ans, lorsque les demi-créatures de la Terre ont commencé à envahir l'espace, alors que nous nous retirions sous Terre, les autres mondes de spatiaux se montrèrent bien décidés à s'opposer aux nouveaux colons terriens. Alors ils frappèrent la Terre.
« La Terre ?» répéta Trévis, cherchant à dissimuler sa satisfaction de voir le sujet apparaître enfin.
« Oui, ils avaient voulu frapper au cœur. Un mouvement raisonnable en un sens. Si vous voulez tuer quelqu'un, vous ne visez pas le doigt ou le talon, mais bien le cœur. Et nos semblables spatiaux, encore peu éloignés des humains par leur passion, réussirent à transformer la surface de la Terre en un brasier radioactif, si bien que la planète devint largement inhabitable. « Ah ! C'est donc là ce qui s'est produit !»
dit Pellorat, serrant le poing et l'agitant rapidement comme pour appuyer une thèse.
« Je savais bien qu'il ne pouvait s'agir d'un phénomène naturel. Comment ont-ils fait ?»« Je l'ignore, »
dit Xander indifférent.
« En tout cas, cela n'a pas profité aux spatiaux. C'est là que l'histoire devient intéressante. Les colons ont continué à se répandre et les spatiaux se sont éteints. Ils avaient voulu rivaliser et disparurent. Nous autres solariens, nous sommes retirés, refusant la compétition. Et nous sommes toujours là.
Les colons aussi, remarqua Trévis d'un ton dur.
Oui, mais pas pour l'éternité. Les envahisseurs doivent lutter, doivent rivaliser, et au bout du compte mourir. Cela prendra peut-être des dizaines de milliers d'années, mais nous pouvons attendre. Et lorsque cela se produira, nous autres solariens, entiers, solitaires, libérés, disposerons de la galaxie pour nous seuls. Nous pourrons alors exploiter ou non, à notre guise, tel ou tel monde en sus d'une autre.
« Mais pour revenir à la Terre, » dit Pellorat, claquant des doigts avec impatience, « ce que vous nous racontez relève-t-il de la légende ou de l'histoire ?»
« Qui peut faire la différence, demi-Pellorat ?»
demanda Xander.
« Toute histoire est légende, plus ou moins. »«
Mais que disent vos archives ? Pourrais-je voir les documents ayant trait au sujet, Xander ? Comprenez-vous, ces affaires de mythes, de légendes, d'histoire ancienne sont mon domaine. Je suis un érudit qui s'est spécialisé dans ces matières, et tout particulièrement celles en relation avec la Terre. »
« Je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. »
dit Xander.
Il n'existe aucun document sur le sujet. Nos archives ont uniquement trait aux affaires solariennes, et les autres mondes n'y sont mentionnés que pour autant qu'ils nous affectent.
Sans aucun doute, la Terre vous a-t-elle affecté, nota Pellorat.
C'est fort possible. Mais même dans ce cas, cela remonte à bien longtemps, et de tous les mondes, la Terre était celui qui nous inspirait le plus de répugnance. Si nous avons détenu des actes la mentionnant, je suis certain qu'ils ont été détruits, par pure révulsion.
Trévis en grinça des dents de contrariété. « Détruits par vous ? » lança-t-il. Xander reporta son attention vers Trévis.
« Il n'y avait personne d'autre pour le faire. »
Pellorat refusait de voir dévier le sujet.
« Qu'avez-vous entendu d'autre concernant la Terre ? »
Xander réfléchit, puis reprit.
Quand j'étais jeune, j'ai entendu un robot me raconter l'histoire d'un terrien qui jadis avait visité Solaria et d'une solarienne qui serait repartie avec lui pour devenir un personnage important de la galaxie. Ceci toutefois relève selon moi de la pure invention.
Pellerat se mordit la lèvre.
En êtes-vous certain?
Comment puis-je être certain de quoi que ce soit en un tel domaine? Néanmoins, cela dépasse les limites du crédible qu'un terrien ait osé venir sur Solaria ou que Solaria ait permis cette intrusion. Il est encore moins imaginable qu'une femme solarienne, nous étions demi-humains à l'époque, mais même dans ces conditions, ait accepté volontairement de quitter cette planète. Mais venez que je vous montre mes appartements.
Vos appartements? Demanda Joie en regardant autour d'elle.
« N'y sommes-nous pas ?»« Pas du tout, »
dit Xander.
« Ceci n'est qu'une antichambre, une salle vidéo. C'est là que je vois mes semblables solariens quand il le faut. Leur image apparaît sur ce mur ou en trois dimensions dans l'espace devant. Cette salle est un lieu de réunion publique par conséquent et ne fait pas partie de mes appartements. Venez avec moi. »
Il partit, sans se retourner pour voir s'il lui emboîtait le pas. Mais les quatre robots avaient quitté leur coin, et Trévis comprit que si ses compagnons et lui ne suivaient pas spontanément, les robots les y forceraient en douceur. Les deux autres se levèrent, et Trévis murmura discrètement à Joie.
« L'avez-vous poussé à parler ?»
Joie lui pressa la main et acquiesça.
« Tout de même, j'aurais bien voulu savoir quelles étaient ses intentions. »
ajouta-t-elle un soupçon de malaise dans la voix.